Une étude internationale coordonnée par des scientifiques toulousains a révélé l'existence d'un peuple autochtone en Sibérie.
Yakoutie, c'est l'histoire d'un peuple autochtone face à l'expérience coloniale. Plus de 15 années de recherche en Sibérie ont permis de connaître la vie de ce peuple. Et pour nous raconter cette formidable découverte, j'ai la joie de recevoir le professeur Éric Crubezy, membre du Centre d'anthropobiologie et de génomique de Toulouse, le CAGT, et professeur à l'Institut universitaire de France. Bonjour professeur.
Bonjour.
Peut-être que les auditeurs s'en souviennent, mais vous êtes venu il y a à peu près un an nous parler de deux sarcophages que vous aviez retrouvés, enfin qui ont été retrouvés sous Notre-Dame de Paris et que vous aviez étudiés. Et l'un d'eux s'était révélé contenir la dépouille de Joachim du Bellay.
Tout à fait.
À vos côtés, Andène Séguin-Orlando, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Toulouse et vous avez conduit les analyses moléculaires dans ce même laboratoire CAGT. Éric Crubezy, vous avez dirigé donc pendant plus de 15 ans cette mission, la mission française en Sibérie orientale, la MAFSO. Quel était précisément l'objectif de cette mission?
Alors c'était une mission française, mais en fait une mission franco-yakoute. D'accord. Et donc franco-russe, si on veut, puisque la Yakoutie, c'est une république autochtone de la...
De la Fédération de Russie.
Oui, oui. Tout à fait. Oui. Et l'objectif, dès le départ, c'était de confronter des données culturelles, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans les tombes, et des données biologiques, c'est-à-dire ce que Andène a étudié par la suite. Et donc ça, c'est un objectif qui était donné dès le départ, et qui était... On s'était intéressé à la Yakoutie parce que les tombes étaient gelées, et donc tout était intact, ce qui permettait d'avoir des données culturelles, je dirais, totalement novatrices, puisque les... C'est un peu comme si on s'intéressait à quelqu'un de vivant, si vous voulez, oui. Puisqu'il y a tous les vêtements, etc. Et en même temps, les données biologiques étaient très bien conservées.
Et vous avez pu remonter jusqu'à quelle époque?
Alors, comme Andène vous en parlera, nos collègues qui font de la génomique ont pu démontrer que les Yakoutes sont arrivés vers le 13e, 14e siècle en Yakoutie. Et nous avons donc fouillé des tombes, si vous voulez, dont les plus anciennes sont du XIVe siècle et les plus récentes de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire à un moment où les Yakoutes sont totalement intégrés à ce qu'on appelle la Russie orthodoxe.
Oui, c'est ça. Alors, ce peuple de Yakoutie, est-ce que on en sait quelque chose justement culturellement, de quoi il vivait, quel était en fait son mode de vie?
Alors, ce qui nous a intéressé, si vous voulez, pourquoi on est allé en Yakoutie, oui. En fait, c'était oui. En dehors du fait que ce soit des tombes gelées, c'est que c'est un peuple qui vit dans la partie la plus froide du monde, à l'exception de l'Arctique, d'accord.
Et avec c'est la Sibérie.
Oui, c'est la Sibérie, mais en fait, c'est la Sibérie froide, si vous voulez. C'est-à-dire oui. Qu'avec des températures qui vont de moins 50 à moins 60 degrés en hiver. Mais justement, ce qui en fait l'intérêt, si vous voulez, de ce peuple. Au départ, ce qui nous a intéressé, c'est que ce sont des gens qui parlent une langue d'origine turque, alors que tous ceux qui sont autour d'eux parlent des langues d'origine sibérienne. Et par moins 60 degrés, ils élèvent des vaches et des chevaux, alors que ceux qui sont autour d'eux élèvent des rennes.
Ah oui.
Donc c'était la particularité. Pourquoi cette particularité?
Eh oui, et ce qui a donc stimulé votre curiosité, donc vous le disiez, des températures hivernales qui atteignent moins 60 degrés, on imagine que les corps enterrés ont pu être remarquablement conservés. Qu'est-ce que vous avez pu exhumer, de ce territoire de Yakoutie?
Ben, nous, ce qui nous intéressait, parce que c'est notre spécialité de l'équipe avec nos collègues yakoutes, c'était des tombes donc qu'on recherchait parce qu'elles sont dispersées sur le territoire. Et donc, une fois que ces tombes étaient retrouvées, ce qui est déjà, je dirais, un exploit qui était réalisé par nos collègues yakoutes, qui avaient bien l'habitude du terrain, c'est de trouver des tombes où, comme je vous le préciser, tout est remarquablement bien conservé. Oui. C'est-à-dire qu'on retrouve des sujets dans leur coffre en bois. On rencontre, par exemple, 16e, 17e siècle, des sujets dans leur coffre en bois qui eux-mêmes sont dans un cercueil à l'intérieur avec tous leurs vêtements, qui sont souvent, des vêtements avec de nombreuses perles d'importation chinoise ou autre. Mais on a aussi des éléments tels que des pots dans lesquels les Yakoutes mettaient du beurre, mais le beurre est retrouvé intact.
Ah, c'est incroyable.
Donc, ça permet effectivement une multitude d'études.
Donc, ils étaient enterrés avec de la nourriture, finalement.
Alors, c'était pour, ça, pour se nourrir. À certaines époques, oui, tout à fait. Et pour certaines personnes, oui. Souvent, des offrandes de viande de cheval. Et souvent, un pot avec des matières laitières, et notamment du beurre.
Oui. Ouais, c'est fou. Hein. Donc, vous avez trouvé, vous avez pu étudier 122 individus. Vous avez donc trouvé des bijoux, des habits. Andaine Séguin-Orlando, vous avez analysé les molécules des yakouts. Très concrètement, est-ce que vous êtes allé sur place? Est-ce qu'il y a des morceaux de corps, pardon de le dire comme ça, qui ont été transportés à Toulouse? Très concrètement, comment vous avez procédé?
Très concrètement, alors moi, je ne suis pas allée sur place en Yakoutie. Ça, c'est plus le travail des archéologues de terrain. Donc, c'est plus le travail aussi mené par Eric. Donc, très concrètement, en fait, Eric et ses équipes m'ont confié des ossements, des petits ossements ou des dents et parfois même des tissus d'individus. On a eu des morceaux de poumons, par exemple, des morceaux de muscles. Et c'est à partir de ça que moi, je travaille. Donc, mon terrain à moi, c'est plus le labo. Et ensuite, je fais un sous-prélèvement de ces dents, par exemple, un tout petit, hein, de quelques dizaines de milligrammes. Et c'est à partir de ça que j'essaye au maximum de récupérer les molécules d'ADN, l'ADN de l'individu en lui-même, et puis, dans certains cas aussi, l'ADN de pathogènes qui ont pu infecter cet individu de son vivant et éventuellement causer sa mort.
Oui, parce qu'on va voir, vous avez effectivement détecté que certaines personnes étaient mortes de maladies, et notamment de la variole. Vous avez étudié combien de personnes?
Alors, combien exactement, je ne me souviens plus. On en a retenu 122 pour l'étude. Il y en a quelques-uns qu'on a étudiés en plus et pour lesquels ça n'a pas... suffisamment bien fonctionné, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en général, quand on travaille sur l'ADN ancien, on a un taux d'échec qui est très important. Et dans ce cas-là, étant donné les conditions climatiques
de conservation,
dont Eric a parlé, en fait, on a des individus, c'est un peu comme s'ils étaient restés dans un congélateur depuis le moment de leur mort, et donc c'est très bien préservé d'un point de vue anatomique, mais également d'un point de vue moléculaire. Donc au final, c'est vraiment un très très très, très peu de cas, finalement, qui n'ont pas bien fonctionné, pour lesquels les molécules n'étaient pas suffisamment bien préservées.
Donc, vous avez étudié des morceaux infimes de dents. Ça veut dire que vous avez pu avoir une idée de ce qui se passait dans la bouche, finalement, de ces yakouts. Qu'est-ce que vous avez découvert?
Alors, on a recherché deux choses. D'une part, on a recherché tout ce qui pouvait concerner le microbiote oral des individus, puisque sur les dents, on avait parfois des traces de tartre dentaire, par exemple. Et puis même, tout simplement, sur la surface de la dent, vous avez des restes de bactéries ou d'autres microbes qui étaient présents en surface. Et donc, ce qu'on a voulu, c'est ça, c'est essayer de reconstituer la diversité des communautés microbiennes présentes dans la bouche pour voir si des changements de régime alimentaire du fait de l'arrivée des Russes ont pu provoquer des changements de microbiote. Et ce qu'on a constaté, c'est de manière un peu surprenante, une grande stabilité, en fait, au cours du temps de ces communautés microbiennes, donc un relativement faible impact au niveau de la biologie orale, on va dire, des individus. Donc ça, c'est, voilà, ça, c'est une première
chose. Donc finalement, la nourriture qui aurait pu évoluer avec l'arrivée des Russes n'a pas engendré de grands changements chez ces yakouts.
Alors, ça, au niveau du microbiote oral des individus. Effectivement, des changements, il y en a eu énormément. Ça, Eric pourra vous l'expliquer mieux que moi. Mais au niveau juste de la biologie des microbes oraux, pas tellement. Non.
Et qu'en est-il de la variole donc, que vous avez trouvée sur les ossements que vous avez étudiés?
Voilà, alors ça, c'est sur... on l'a bien démontré pour deux individus. Pour deux individus, en fait, quand on récupère l'ADN qui est présent dans les tissus qu'on a prélevés, on a une sorte de soupe, en fait, de molécules. Et dans cette soupe, il y a les molécules humaines. Et puis, il y en a quelques-unes qui venaient effectivement du virus de la variole pour deux individus. Alors, c'est pour l'un d'entre eux, en tout cas, trouvé quand même dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire une sépulture où il y a plusieurs individus, adultes, enfants, qui ont été inhumés en même temps. Donc, c'est vrai qu'il y avait quand même des gros indices qu'il s'était passé quelque chose de très particulier pour eux et vraisemblablement une maladie infectieuse.
Une épidémie, voilà. Une épidémie de variole, ça, alors.
Ouais. Oui.
Eric Crebezy, qu'est-ce qu'ont révélé les analyses génétiques?
Comme vous l'a dit Andaine, en fait, il y a plusieurs éléments qui ont été, je dirais, pris en compte. Il y a d'une part l'origine des yakouts, qui étaient discutées. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ont mis en évidence les analyses génétiques, il y a une convergence avec certaines légendes de Yakout. Les Yakout disent dans leur légende qu'ils sont originaires du Sud. Et donc ça, c'est quelque chose qui est connu, je dirais, ben, depuis l'arrivée des Yakout, puisqu'ils l'ont même raconté aux premiers explorateurs russes qui sont arrivés.
Donc il y a cette tradition orale
qui a persisté. Mais la question qui se posait, c'est qu'il y avait plusieurs écoles russes depuis le 19e siècle, certains disant que les Yakout étaient arrivés non pas du sud, mais plutôt, je dirais, de l'ouest, d'autres disant qu'ils ne s'étaient pas mêlés aux populations locales, et d'autres, enfin, assurant qu'ils n'étaient jamais venus du sud et qu'ils avaient simplement, c'était des populations locales qui avaient subi quelques influences, si vous voulez. Et là, l'intérêt de la génomique, c'est effectivement de pouvoir préciser une forte arrivée de populations du sud, de la région du Baïkal, donc à 2000 km de là, avec un mélange avec des populations locales. Donc ça, c'est un élément qui est, qui résout une énigme qui, vue de France, évidemment, n'en est pas, semble très anecdotique, mais qui, pour ceux qui s'intéressent à la Sibérie, à nos collègues Yakout, est une étude qui, effectivement, résout des problèmes qui sont d'actualité chez eux, en tout cas depuis les années 30.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc ça, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Mais après, il y a eu d'autres, évidemment, d'autres découvertes. On en a bien en parlé, notamment les relations de parenté entre tombes qui ont pu être mises en évidence, parce que les Yakout ont des tombes qui sont près des lacs, chacun étant un peu chez soi, inhumé un peu chez soi, si vous voulez, comme à une époque, les protestants, par exemple, au 19e siècle en France, qui étaient enterrés dans leurs vignes, d'accord, en Occitanie. Et bien là, c'est un peu la même chose. Et ce que Andenne et Ludovic Orlando ont pu montrer avec d'autres collègues à nous, c'est qu'effectivement, il y a des gens éloignés, si vous voulez, qui étaient parents. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet aussi de voir un peu comment, au sein d'une même famille, par exemple, est-ce qu'il y a des attributs communs, puisqu'on a justement tous ces éléments culturels qui sont conservés. Donc ça, c'est excessivement intéressant, si vous voulez, de confronter les données biologiques de parenté avec la culture. Est-ce qu'ils étaient habillés de la même façon, dans une même famille, à distance ou autre?
Oui. Pour terminer, en 30 secondes, Andenne, Séguin, Orlando, qu'est-ce que cette recherche peut vous apporter, vous, aujourd'hui, en France, à Toulouse? Et cette découverte, plutôt qu'une recherche, d'ailleurs.
Alors, outre l'intérêt intellectuel, je pense qu'une des particularités de cette recherche, c'est qu'on a réussi à montrer, en fait, qu'on peut utiliser un très grand nombre d'outils différents pour explorer les mêmes questions. Je pense que c'est vraiment ça le principal intérêt de cette recherche-là, où on mêle de l'archéologie, de l'anthropologie, de la biologie moléculaire humaine, de la génétique des pathogènes. C'est un peu ça, je pense, que moi je retiens en tout cas de cette étude.
En tout cas, c'était une étude passionnante et on vous écoutera encore pendant des heures. Merci beaucoup Éric Cruvesi. Je rappelle que vous êtes membre du Centre d'anthropobiologie et de génomique de Toulouse et professeur à l'Institut universitaire de France. Merci à vous aussi Andenne Séguin Orlando, maître de conférence à l'Université de Toulouse. Vous nous avez fait part de cette grande découverte du peuple Yakout en Sibérie au nord-est de la Fédération de Russie. C'était votre grand entretien sur Radio Présence. Merci.